Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré ce soir à l'incendie du camp de réfugiés de Moria. Moria, c'est fini et c'est sans fin. Voilà, mis en mots par l'écrivaine Marie Connet, de façon lapidaire, le sentiment et la réalité qui frappent après l'incendie qui a entièrement dévasté le camp situé à Lesbos, en Grèce, où sont entassés près de 13 000 réfugiés pour une capacité d'accueil, rappelons-le, de 2 500 places. Au plus fort des arrivées, depuis les côtes turques, le camp comptait même plus de 20 000 personnes. Un peu d'histoire s'impose, elle est rapide et épouse évidemment celle des politiques migratoires européennes. Moria ouvre en 2013 sur un site militaire désaffecté. C'est alors un centre d'enregistrement administratif pour les quelques centaines de migrants qui font halte sur leur route vers l'Europe du Nord. Deux ans plus tard, dans le sillage de la guerre en Syrie, Lesbos et ses 85 000 habitants voient affluer plus de 450 000 chercheurs d'asile en un an. Moria est le seul lieu disponible. Il glissera donc peu à peu de centre d'accueil à centre de rétention. La plupart des pays européens ferment alors leurs frontières. Lesbos devient bientôt un goulet d'étranglement pour les réfugiés et les habitants qui les avaient d'abord accueillis se sentent abandonnés. La situation se crispe. En 2016, l'Union européenne signe un pacte migratoire avec la Turquie qui prévoit le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie en contrepartie d'un soutien financier. L'UE met alors en place 9 hotspots en Grèce, dont Lesbos et en Italie. Ces centres sont chargés d'identifier les nouveaux arrivants et de séparer les demandeurs d'asile des migrants économiques. Manifestement, le président turc Recep Tayyip Erdogan est résolu à se servir de ce levier migratoire comme outil diplomatique et géopolitique. Le bilan reste pour le moins mitigé. À cette situation déjà tendue est venue s'ajouter la pandémie de Covid-19. Le camp de Moria a été confiné dès le mois de mars. Ce sont apparemment de nouvelles mesures sanitaires qui ont déclenché des réactions hostiles et l'incendie qui a ravagé le camp. Alors, incendie de Moria, une catastrophe prévisible, c'est la question que nous posons ce soir dans le temps du débat du samedi, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Et trois invités pour discuter de cette question ce soir. Camille Schmoll, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante à l'Université de Paris, membre du laboratoire Géographie, Cité et IC Migration. Vous êtes l'autrice de « Les damnés de la mer » qui doit sortir en novembre à la découverte. « Damnés » s'écrit au féminin car c'est le recueil de témoignages de femmes qui ont traversé la Méditerranée. Marie Connet, bonsoir, vous êtes avec nous par liaison depuis le sud-ouest de la France. Bonsoir Marie Connet.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine et traductrice et vous êtes la co-autrice avec Mathieu Pot-Bonneville de Voir venir écrire l'hospitalité. C'était publié aux éditions Stock et vous avez fait un séjour d'une dizaine de jours fin février à Moria. Enfin, nous sommes depuis Bruxelles avec Aurélie Pontieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère en affaires humanitaires, en charge des migrations, spécialiste des questions de déplacement de la population pour Médecins sans frontières. Médecins sans frontières qui est évidemment présent sur place. Et donc ma première question s'adresse à vous, Aurélie Pontieux. Quelle est la situation à Lesbos à l'heure où nous parlons ?
La situation est indescriptible en fait. Elle est complètement chaotique. Donc voilà, suite aux deux incendies hein, qui ont fait rage à Moria, on a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont bloquées entre des barrages de police et des barrages de gens qui habitent l'île et de gens qui font partie de groupes d'extrême droite et qui bloquent voilà ces réfugiés, ces demandeurs d'asile sur une route de 5 km de long. Entre Moria, le camp de Karatepe et un carrefour. Donc on a voilà des personnes qui ont déjà passé deux nuits sans aide humanitaire, avec pratiquement rien, à même le sol, dans des conditions vraiment déplorables.
Des conditions déplorables qui étaient aussi celles du camp de Lesbos, mais évidemment là, la situation est complètement hors de contrôle. C'est comme ça que vous le diriez, Aurélie Pontieux ?
Oui, c'est hors de contrôle parce qu'il n'y a pas de voilà aujourd'hui il n'y a pas d'issue. Nous on a essayé donc de bon déjà on a réussi à protéger notre clinique qui se situe en face du camp de Moria. Donc heureusement il y a encore une structure de santé qui tient debout et donc on a pu réouvrir tant que bien que mal hier et faire quelques consultations. On essaye de faire des cliniques mobiles et des distributions de couvertures, de tentes aujourd'hui. Mais la situation est très tendue. D'abord parce que, évidemment, Il y a ces barrages de police, ces barrages de la population locale qui créent une tension extrêmement forte. Et puis, évidemment, on est dans une situation après deux jours où on ne voit pas vraiment de plan se mettre en place pour organiser l'assistance humanitaire, l'accès aux soins, parce qu'évidemment, comme vous l'avez mentionné, on est dans une épidémie de Covid sur l'île de Lesbos. Et il y avait déjà des personnes qui avaient été identifiées comme des cas confirmés. Et donc, il faut absolument maintenir l'accès aux soins pendant cette période. Et puis, il n'y a pas vraiment de plan pour organiser des structures temporaires et surtout pour évacuer de manière urgente ces personnes qui doivent être évacuées. Donc, il y a eu une évacuation de 400 mineurs non accompagnés. Mais ça suffit pas.
Financé par l'Union européenne, en tout cas c'est l'Union européenne qui a dit qu'elle prenait en charge cette évacuation vers le continent et donc vers la Grèce de ces 400 mineurs. Une dernière question avant de faire tourner la parole, si vous voulez bien, Aurélie Ponthieu. On a dit en effet qu'il y avait cette épidémie de Covid. On a pu dire que c'était à l'origine des incendies, c'est-à-dire des nouvelles mesures sanitaires dans un camp qui est déjà confiné depuis le mois de mars, la mise à l'isolement d'une trentaine de personnes, de cas qui n'étaient pas forcément confirmés, mais voilà, d'une trentaine de réfugiés sur place. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les causes de l'incendie aujourd'hui ?
Bon, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Après, voilà, le départ de feu, enfin, c'est pas la première fois que Moria brûle. Moria a déjà brûlé en 2016, pratiquement totalement. Il y a eu régulièrement des feux. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie suite à des incendies dans Moria depuis 4 ans.
Dont une petite fille encore au mois de juillet dernier, je crois.
Tout à fait. Nous, on avait déjà un plan d'urgence, préparation, incendie pour Moria, parce qu'on savait très bien que c'était un des risques majeurs. Et donc aujourd'hui, la question, c'est pas tellement comment le feu est parti, c'est pourquoi on en arrive là et pourquoi on n'a rien fait pour éviter ça et pour créer des conditions dignes pour ces gens alors qu'on les a demandés depuis des années.
Alors on va en discuter. Évidemment, Camille Schmoll, quand on se pose la question de savoir si c'était prévisible, c'était presque inévitable, cette catastrophe. Il y a évidemment la question du feu, Aurélie Ponthieu vient y répondre, mais aussi des conditions générales qui amènent la situation qui vient de nous être décrite.
Effectivement, c'est une situation, celle de Moria, qui existe, comme vous l'avez rappelé, depuis plus de 5 ans. Il y a la violence de la catastrophe et le drame actuel, mais il y a aussi cette violence à basse intensité, qui est celle du regroupement des demandeurs d'asile. C'est à peu près la moitié des demandeurs d'asile en Grèce qui sont regroupés dans les îles actuellement. Donc, il y a cette forme de délégation, en fait, de la part de l'Union européenne aux États d'Europe du Sud, mais aussi du gouvernement grec envers ces îles, du traitement de la question de l'asile. Et cette espèce de délégation territoriale qui fait qu'il y a des territoires aujourd'hui en Europe, et les îles en premier lieu, qui sont des lieux frontières, qui sont des lieux où on va externaliser, en quelque sorte, à l'intérieur du territoire, le tri et le traitement des demandes d'asile. Vous avez rappelé la question des hotspots. Bon, ça peut être dans des hotspots, ça peut être dans des centres de tri différents, mais qui
ont la même fonction. On reviendra évidemment sur ce système européen d'immigration. Camille Schmoll, mais un mot avec vous, Marie Connet, puisqu'on parle de violence à basse intensité, celle du regroupement dans ces îles, violence qui parfois s'exprime à haute intensité. Les ONG alertent depuis longtemps sur ce qu'elles appellent la honte pour l'Europe, d'un lieu où on peut constater, notamment MSF a constaté que 25% des enfants de 6 à 18 ans ont recours à des formes d'automutilation, ont tenté de se suicider entre février et juin 2018. C'est à l'époque qu'on a les chiffres. Vous vous y êtes rendu une dizaine de jours. Cette violence, elle était palpable au moment où vous y étiez, Marie Connet ?
C'est-à-dire qu'au moment où j'y suis allée, en février, c'était le moment où le nouveau gouvernement grec promettait, entre guillemets, des prisons fermées. C'est-à-dire était en train de transgresser encore davantage le droit des personnes, puisque les gens qui arrivent à Moria sont demandeurs d'asile. En tant que demandeurs d'asile, une fois que leur asile est enregistré, ils sont, en tout cas jusqu'au moment où l'asile n'est pas rejeté, autorisé et régulier. Et malgré ça, ils seraient susceptibles d'être enfermés. Et c'est une violence inouïe aussi pour les Grecs, parce que les Grecs en 2015, pour un petit peu, en effet en ce moment, les réfugiés sont menacés aussi par des bandes fascistes, mais les Grecs de l'île, des îles, ont été incroyablement hospitaliers en 2015. Aujourd'hui, même ceux qui souhaitent l'être, et il y en a beaucoup qui le sont, sont empêchés. Parce que comment on peut accueillir quelqu'un chez soi qui est devenu une prison? Comment on peut accueillir quelqu'un qui veut être accueilli partout sauf ici, parce que c'est une prison? Donc, une sorte de violence. Alors, la communauté des Grecs, même des Grecs qui accueillent, qui veulent accueillir, la communauté des réfugiés, et la troisième communauté, celle des ONG. Et ces trois communautés pourraient s'entendre, se parler, fabriquer des choses et des solidarités, comme on le voit partout quand même en Europe, des solidarités citoyennes, sont empêchées de le faire. Et ça fait une sorte de fabrication d'insatisfaction collective, d'insatisfaction, tout notre narcissisme est abîmé, même quand on n'a qu'une volonté, c'est de pouvoir accueillir. Ça devient impossible. Là, c'est une grande, grande violence.
Alors Aurélie Ponthieux, on vient de rappeler, Marie-Conné vient de rappeler que le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, donc en Grèce, avait voulu transformer, c'était au mois de février dernier, je crois, le camp de Moria en camp fermé, c'est-à-dire faire glisser ce camp qui était d'abord, je le rappelais en 2013, un camp d'accueil, un camp administratif, en camp de rétention.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est déjà en cours sur les autres îles. Donc, il y a d'autres camps hotspots sur les îles de Samos, Chios, Leros et Kos. Et c'est déjà en cours. Donc, il y a déjà une fermeture de ces camps qui est en cours. Et ce qu'il faut savoir pour Lesbos, c'est qu'il y a eu vraiment une assimilation, en fait, de l'agenda migratoire, donc de fermeture totale, de détention, avec l'agenda de santé publique lié au Covid. Et ça, c'est vraiment problématique et c'est une des sources de tension. C'est pas la seule, mais ça a attisé beaucoup le feu.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les deux sont liés, Aurélie Ponthieux?
Mais en fait, les mesures de santé publique qui sont prises, normalement, elles doivent être proportionnées, nécessaires, légales et non discriminatoires. Et en fait, depuis mars, ce qu'on voit, c'est tout le contraire à Lesbos. Donc en fait, comme vous l'avez mentionné, les mesures de confinement ont été beaucoup plus strictes pour les réfugiés. En plus, on les a mis dans des conditions où ils n'étaient pas du tout en mesure de se protéger contre le Covid. Donc il n'y a pas l'accès à l'eau, au savon, la distanciation physique est impossible. Ces dernières semaines, plus de mesures d'isolement possibles parce qu'on a fermé notre centre Covid.
Ça, c'était en juillet dernier, il faut le rappeler, hein, MSF avait ouvert un centre Covid qui a été fermé pour raison de non-respect des règles d'urbanisme.
Oui, tout à fait. Et donc, on s'est retrouvé sans plan pour le Covid, alors qu'on était prêt à une épidémie, on s'inquiétait énormément. Et puis, il y a un couvre-feu qui a été mis en place très tôt, donc et les mesures de déconfinement dont la population locale a pu bénéficier, les réfugiés n'ont pas pu en bénéficier. Et on a et le gouvernement ces derniers jours, en fait, quand le premier cas de Covid a été détecté dans le camp de Moria, donc un monsieur somalien qui était à la rue à Athènes et qui est revenu par désespoir à Moria parce qu'il connaissait rien de mieux. Le gouvernement a profité pour pousser son agenda de détention. Donc a dit voilà, si on avait des centres fermés, ce serait pas arrivé, ce qui est complètement absurde. Et donc le camp a été mis en quarantaine alors qu'il y avait aucune mesure pour protéger la santé des gens. Évidemment les réfugiés ne sont pas stupides, ils voient très bien ce qui se passe, ils sont habitués à ces mesures et quand c'est trop, c'est trop. Et il y avait une tension qui était en train de monter et c'est vraiment une instrumentalisation de la santé publique, de la santé individuelle à des fins une nouvelle fois de contrôle migratoire, de détention. Et c'est ça la source du feu, c'est cet agenda de dissuasion à tout prix, de détention, de rétention, de rejet de cette population.
Camille Schmoll, c'était rappelé par François Gémen au micro de Guillaume Erner hier à la matinale de France Culture. Il y a cette idée selon laquelle l'un des outils pour limiter, si c'est tant est que ce soit l'objectif politique, limiter l'immigration, c'est de rendre invivable en quelque sorte la présence de celles et ceux qui arrivent jusqu'aux côtes européenne de façon notamment illégale ou en tout cas jugée comme telle par les autorités. Et donc c'est typiquement ce qu'on entend finalement dans la bouche là d'Aurélie Ponthieux de MSF. Est-ce que vous qui travaillez notamment au sein du GIEM, hein, qui est ce groupement de scientifiques pour analyser un petit peu froidement les chiffres et les politiques migratoires, est-ce que c'est d'après vous d'abord une politique volontaire? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Et est-ce que c'est une politique efficace?
Oui, effectivement, on est un petit peu sur la même ligne avec François Gémen. C'est pas une politique, enfin c'est une politique de démonstration en fait. On instrumentalise ces centres, on rend visible la situation d'urgence dans ces îles hein, pour quelque part faire peur. Et donc c'est finalement ce qui nous désole un petit peu, c'est que dans tout ça c'est l'extrême droite qui mène un peu la danse et le débat en Europe actuellement. Peut-être qu'il faut rappeler par exemple que aujourd'hui il n'y a pas du tout les éléments d'une crise migratoire en Grèce. Il y a eu moins d'arrivées que l'année dernière, il y a eu 11 000 arrivées en Grèce cette année. C'est simplement que les personnes qui sont en demande d'asile sont concentrées dans les îles dans des conditions inacceptables. Oui, il y a une instrumentalisation, oui, il y a une criminalisation des associations, des organisations humanitaires qui viennent en aide aux migrants. Il y a une criminalisation à la fois de la migration et de ceux qui viennent en aide. On le voit effectivement avec l'histoire de la clinique MSF, mais on le voit aussi en mer, hein, avec tous les arguments administratifs qui ont été opposés à la possibilité pour certains bateaux comme celui de l'Aquarius hein, d'être en mer. Cette instrumentalisation, on la voit aussi au niveau du Covid. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y avait des normes sanitaires à mettre en place, hein, comme pour tout le monde, comme pour tout citoyen européen. Mais on voit très bien comment on a décidé de renforcer ces normes sanitaires au service d'une politique, effectivement, de découragement à la fois de l'aide aux migrants et aux migrantes et de découragement des migrations en elles-mêmes.
Marie connaît cette question finalement telle qu'elle est posée à la fois à l'instant par Camille Schmoll et par Aurélie Pontu avant elle. C'est une question politique.
Oui, c'est une question politique, de, comme vous l'avez dit, hein, d'instrumentalisation des migrations. Je voulais rappeler que ce qui s'est passé aussi au moment du confinement et de la mise en quarantaine, qui a duré très très longtemps dans le camp de Moria. En même temps, tout s'est passé en même temps. C'est-à-dire la loi d'asile, et c'est une nouvelle loi sur laquelle les avocats et les réfugiés encore moins n'ont de recul aujourd'hui, qui vient d'être votée, qui n'a pas pu encore être appliquée, j'imagine, mais puisque tout s'est arrêté, les recours, etc. Mais c'est vrai qu'en février, et en mars, il y avait cette inquiétude. Comment vont se passer nos recours? En même temps, la carte, qui était une carte de retrait d'argent des demandeurs d'asile, l'argent s'élève en Grèce à 90 euros par mois, est devenue une carte...
Ça, c'est l'allocation par le gouvernement aux réfugiés, 90 euros par mois pour survivre.
Voilà, ça c'est en Grèce, est passée sans explication à 75 euros. Alors, ça crée encore des incompréhensions de plus et des questionnements. Et comme disait Aurélie Pontieu, personne n'est stupide et tout le monde voit qu'on peut aller de plus en plus loin. On ne sait pas jusqu'où on peut aller de cette manière-là. D'autant plus qu'une carte de consommation comme ça, on ne pouvait pas s'en servir puisque le camp était confiné et que les gens de Moria ne pouvaient pas aller à Mytilène, la ville d'à côté, où ils allaient jusqu'en février où malgré tout, les gens circulaient. Et là, c'était terminé, on ne pouvait plus circuler. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui, petit à petit, deviennent insupportables et surtout sans espoir, puisque les délais sont de plus en plus longs.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole.
Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo.
Vous écoutez le temps du débat du samedi et la question ce soir qui tourne autour de l'incendie de Moria, c'est évidemment de savoir si c'était une catastrophe prévisible avec 3 invités. Camille Schmoll qui est ici en studio à Paris, géographe, enseignante à l'Université de Paris, spécialiste des questions migratoires. Marie Connet qui est en liaison depuis le sud-ouest de la France, écrivaine et traductrice. Et Aurélie Ponthieu depuis Bruxelles, spécialiste des questions de déplacement de la population pour Médecins sans frontières. Alors, on parle finalement des contextes, du contexte dans lequel est arrivé cet incendie, Camille Schmoll, et c'est un contexte d'une question, comment dire, un contexte politique aussi. Comme le rappelait dans Libération Effie Latsoudi, qui est une des figures de proue de l'aide humanitaire sur l'île de Lesbos, le gouvernement grec avait présenté la situation comme à peu près satisfaisante il y a quelques temps, parce que était parvenu à faire baisser, disait-il, le nombre de réfugiés. Et donc, on a là une approche par les chiffres qui permet de se satisfaire d'une situation qui, manifestement, sur le terrain, quand on regarde la réalité, était loin d'être satisfaisante.
Le gouvernement grec peut être satisfait, hein, parce que il y a eu plus d'arrivées l'année dernière, mais ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant, depuis 2016, et l'accord passé avec la Turquie, le nombre des arrivées est relativement réduit. Hein. Donc on peut évidemment le gouvernement grec joue beaucoup dessus. Il y a aussi des tensions entre les régions et le gouvernement. Hein. Moi j'insiste beaucoup sur le fait de regarder les choses à plusieurs échelles, parce que finalement, ce qui se passe aussi, ce qui se joue aussi à Lesbos en ce moment, c'est une espèce de négociation en fait, entre à la fois la région du Nord Égée et le gouvernement, hein, la région qui était appuyée par l'extrême droite. Donc, en fait, oui, le gouvernement a des raisons de se réjouir, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut aussi regarder les choses sur le long terme et se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec le passage à ce nouveau gouvernement de droite en 2019 en Grèce, et voir que finalement c'est vrai qu'il y a eu une gradation dans le contrôle migratoire, et que de ce point de vue-là, on va un petit peu plus loin dans la fermeture, et on va un petit peu plus loin dans la violence faite aux personnes en demande d'asile et aux réfugiés. Hein. Je reviendrai sur ce qu'a dit Marie Connet. C'est vrai que dans ces nouvelles mesures sur l'asile, il y a effectivement le fait de restreindre l'accès à un certain nombre de droits aux réfugiés, donc pas seulement aux demandeurs d'asile. Hein, donc d'un côté, restriction des droits des demandeurs d'asile, hein, et ça date de Tsipras, hein, la clause territoriale, c'est quand même unique.
Alexis Tsipras, qui était le précédent premier ministre de la Grèce.
C'est quand même unique en Europe, hein, le fait que les demandeurs d'asile ne puissent pas se déplacer d'une région à l'autre. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique à la Grèce. Hein, les gens qui arrivent à Lampedusa, une fois qu'ils ont déposé une demande d'asile, ou en Sicile, ils peuvent se déplacer au sein du territoire italien. Hein. Donc, à la fois cette mesure-là prise par la gauche, mais avec le nouvel gouvernement, ce qui change aussi, c'est le sort qui est fait aux réfugiés. Et là, il y a véritablement un changement important.
Aurélie Ponthieu, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la spécificité, l'inégalité finalement qui frappe les réfugiés par rapport évidemment aux citoyens européens, mais même, on a l'impression, par rapport à d'autres lieux où les réfugiés peuvent arriver. Quel regard vous avez, vous, en tant qu'ONG, on l'a dit tout à l'heure, qui est de plus en plus pointé du doigt, montré comme participant plus que en essayant d'accompagner les réfugiés, comme participants, comme étant une partie du problème, pour reprendre un peu cette rhétorique qui est employée de plus en plus à la tête des différents gouvernements européens.
Oui, mais je pense qu'il faut regarder la politique migratoire européenne dans son ensemble, et donc évidemment les situations de crise telles qu'on les voit par exemple en Méditerranée centrale, donc avec toutes ces questions de sauvetage en mer, de débarquement, et la situation sur les îles grecques, voilà, c'est le fruit d'une fermeture des frontières terrestres, de personnes qui sont poussées vers les voies maritimes, et évidemment c'est les frontières extérieures à l'Union européenne, et donc c'est les points sensibles du territoire européen, et c'est là qu'on a mis en place ces mesures incroyablement restrictives. Enfin, oui, l'asile en Grèce, je pense qu'il n'y a pas au monde un système d'asile plus restrictif que le système d'asile qu'on a aujourd'hui en Grèce est pas seulement lié à la politique d'asile grecque, mais aussi à la politique européenne, puisque c'est d'abord l'accord entre la Turquie et l'Union européenne qui a mis en place cette procédure d'asile complètement... Enfin, qui serait dû à peu de chagrin. Enfin,
donc, vous pouvez nous rappeler peut-être les éléments. C'est un accord de 2016, une transaction qui a été présentée comme telle à l'époque, finalement, entre l'Union européenne et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. C'est-à-dire, on vous soutient financièrement et en échange, vous reprenez ou vous gardez, vous limitez la possibilité pour les migrants de passer. Et quand on vous renvoie des migrants, vous les reprenez. Finalement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, les éléments de cet accord de 2016.
Oui, donc l'accord visait en fait à se mettre d'accord avec la Turquie pour qu'ils empêchent de laisser passer les réfugiés et demandeurs d'asile qui arrivaient principalement de Turquie, évidemment, sur cette route. Et donc pour en échange de contrôle aux frontières et de beaucoup d'argent, parce qu'il y a eu plusieurs milliards d'euros qui ont été donnés à la Turquie. À travers des projets d'assistance, etc., par l'Union européenne.
6 milliards d'euros, dit Camille Schmel.
Oui, exactement. Et donc, la Turquie acceptait de reprendre, donc de réadmettre sur son territoire principalement des Syriens, même si après ça s'est étendu à d'autres nationalités. Et en échange de cet échange, l'Union européenne acceptait de réinstaller des réfugiés installés en Turquie sur son territoire. Donc, c'était vraiment une sorte d'échanges de bons procédés et c'est à la suite de cet accord que donc le camp de Moria s'est transformé en hotspot et en centre qui vise d'abord les expulsions plutôt que l'asile et l'accès à l'aide humanitaire. Et donc c'est un des systèmes qu'on a aux frontières extérieures. Évidemment, on a des politiques migratoires de plus en plus restrictives sur tout le territoire européen. Il y a des problèmes d'accès aux soins, d'accès à la procédure d'asile partout en Europe. Mais c'est vrai que la situation aux frontières extérieures, donc principalement en Italie et en Grèce, pose énormément de questions par rapport aux obligations internationales de l'Union européenne. On laisse des gens mourir en mer, on empêche les sauvetages, on suspend l'asile, on empêche les gens de demander l'asile. Donc aujourd'hui, l'asile en Grèce, il faut être extrêmement vulnérable pour pouvoir même déposer une demande d'asile. Enfin, l'idée est que la Turquie est sûre et que les gens doivent retourner là-bas et qu'on va retourner massivement ces personnes, ce qui n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de retour vraiment significatif vers la Turquie. Et c'est pour ça qu'on a cette situation aujourd'hui, ce qui est un problème de calcul dès le départ, parce que ça fonctionne pas comme ça. On peut faire du tri comme ça de personnes avec leurs histoires qui ont principalement tous fui des conflits ou des violations des droits de l'homme, qui viennent avec leurs enfants, avec leurs traumas. On ne peut pas organiser un tri rapide comme ça, comme c'est l'idée de ces hotspots. Et c'est ça le problème, c'est un problème purement mathématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on nous dit qu'on va prendre 400 enfants par-ci, 400 enfants par-là, enfin, je veux dire, il faut arrêter de plaisanter. Donc on ne peut pas juste solutionner le problème qui a été créé par cette politique migratoire en attendant tous les 6 mois que dès que ça dégénère, on fait une bonne démarche, un bon geste et on prend quelques personnes. C'est pas tenable.
Marie Connet, faire le tri, dit Aurélie Ponthieu, ne peut pas se faire comme ça, en tout cas tel qu'il est fait aujourd'hui dans les hotspots aux frontières ou à l'intérieur, aux limites, plutôt faudrait-il dire, de l'Europe, car il est compliqué et il faut prendre en compte les histoires personnelles et il faut aussi, puisque depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaye de définir à la fois cette situation, la situation politique, mais ça interroge aussi sur notre propre position, à nous tous, chacun dans nos fonctions, de aussi trouver les mots justes pour essayer de décrire cette situation et de relayer, quand on le peut et quand on a été en contact, comme vous l'avez été, avec des réfugiés dans le camp de Moria, de relayer leurs paroles. Cette importance des histoires personnelles, vous l'avez aussi éprouvée et écrite dans ce livre « Voir venir, écrire l'hospitalité ».
Oui, absolument. Je rebondis sur le « ça ne fonctionne pas comme ça » parce que et ça rejoint la question du récit aussi. En effet, ça ne fonctionne pas comme ça et le problème, c'est qu'on le sait. Donc c'est là où on le sait avant de faire les accords turcs, grec-turcs, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Un exemple de ce qu'on sait et qu'on continue pourtant à faire durer, c'est parce que là on parle des accords turcs et on parle de la politique grecque, une politique extrêmement sévère autour de l'asile, mais le fait même que le règlement de Dublin soit en place, s'il était appliqué et s'il fonctionnait, on n'aurait que 3 pays d'accueil dans toute l'Europe. Les gens ne pourraient demander l'asile que dans 3 pays. Enfin,
parce
les
que
3
rappelons
pays
les règlements. Les règlements de Dublin, c'est que tout demandeur d'asile doit rester dans le pays où il est arrivé et renvoyé quand il a réussi à en sortir dans ce pays d'arrivée.
Dans le premier pays où il arrive. Or, s'il arrive en Espagne, en Italie ou en Grèce, donc si on prenait à la lettre Dublin et si Dublin fonctionnait, or on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc en réalité, on passe son temps à créer des empêchements, à créer des délais d'attente, des atermoiements, de la désespérance. Mais on sait que ça, et c'est autour de ces questions-là que le récit s'impose pour peut-être pour que le récit ou les récits ou les manières de pouvoir raconter les histoires, mais on tourne dans une boucle qu'on dit depuis tout à l'heure, qui est complètement sans fin et aberrante.
Camille Schmal, on attend un nouveau pacte migratoire pour fin septembre. On sait depuis un certain nombre d'années, c'est dit et répété depuis de nombreuses années que ce système de Dublin qu'on vient de décrire sommairement, il faudrait rentrer un petit peu plus dans les détails, mais il y a eu beaucoup d'émissions sur le sujet sur France Culture et ailleurs, que ce système ne fonctionne pas, qu'il est inique, surtout qu'il fait peser sur les pays comme l'Italie, les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne et la Grèce un poids qui n'est pas ensuite réparti, parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est l'unanimité qui prévaut, et on n'arrive pas à répartir, à faire admettre la répartition nécessaire de la charge que représente, il ne faut pas le nier, l'arrivée des réfugiés sur le sol européen. Camille Schmoll, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce nouveau pacte européen?
On peut toujours espérer, hein. L'espoir fait vivre. Il y a une grande continuité dans les politiques migratoires européennes depuis une trentaine d'années. Donc on a de bonnes raisons aussi de s'inquiéter, parce qu'en fait, les seuls points sur lesquels les États européens arrivent à se mettre d'accord, c'est effectivement la collaboration avec les pays tiers. Donc la Turquie, bien entendu, qui n'hésite pas à utiliser la migration comme arme de négociation.
On parle moins de la Libye. Hein. Il était beaucoup question demander à la Libye
de gérer. De la Libye. La Libye, c'est dramatique. Le gouvernement de centre-gauche italien a renouvelé l'accord avec la Libye récemment. Donc la situation en Libye est absolument épouvantable et dramatique. Hein. MSF, entre autres, l'a largement documenté. Le HCR a également tiré à de nombreuses reprises la sonnette d'alarme. Mais de toute façon, actuellement, tout se fait aux dépens des droits humains. Hein. Donc c'est pas seulement une question humanitaire, c'est vraiment une question de droit. Et c'est là que c'est important, parce que finalement, encore une fois, hein, je me permets de le répéter, ce ne sont pas des flux très importants. On n'est plus du tout dans la situation de 2015, de crise migratoire avec 1 million d'arrivées. On est sur des flux assez réduits, mais par contre on est sur des histoires et des trajectoires qui sont terribles, parce que ces personnes, au fil de leur trajectoire, traversent la frontière pendant des années. C'est-à-dire que, à la fois dans les pays auxquels on externalise le contrôle, à la fois en mer, à la fois sur les îles, et par la suite, quand ils demandent l'asile, ces personnes sont confrontées à la frontière pendant des mois et des années. Donc c'est une vulnérabilisation, en fait, qu'on opère, et c'est une politique qui marche sur la tête, parce que en réalité, on ne fait que rendre les choses plus compliquées, mais on ne peut pas arrêter complètement des flux qui sont des flux qui fonctionnent en grande partie aussi sur des facteurs de départ, hein, et qui font que les gens vont continuer à bouger, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça.
Aurélie Pontieux, je le disais tout à l'heure, il y a une forme de bataille qui se livre d'un point de vue politique et juridique. Hein, Camille Schmoll vient de rappeler l'importance du droit et du juridique dans cette question. Une bataille qui se livre sur les responsabilités, ça on l'a dit, c'est-à-dire tenir pour responsables les ONG plutôt que de tenir pour responsables les politiques qui sont menées au niveau européen. Il y a aussi une bataille qui se livre sur le réel, c'est-à-dire que ce qui est décrit par exemple par Marie Connet dans son ouvrage, ou ce que et dénoncé régulièrement par Médecins Sans Frontières, ou ce que montrent les travaux des chercheurs et des chercheuses du groupe international d'experts sur les migrations ou d'autres par ailleurs. Voilà, il y a des formes de réel qui s'expriment, et on a l'impression, et ça je ne sais pas si vous aurez une réponse à cette question Aurélie Pontieux, mais elle est évidemment lancinante, que c'est comment il peut y avoir une telle, ce qu'on pourrait appeler une forme de dissonance cognitive entre le réel qui est ainsi présenté et le réel sur lequel se fondent les politiques qui nous sont présentées quotidiennement.
Ah ben, je pense qu'il y a surtout un manque de courage politique, et donc c'est ça le problème. C'est On voit d'ailleurs la situation ces derniers jours le prouve. Hein. Nous, ça fait des années qu'on demande l'évacuation des personnes vulnérables de Moria. Et bon, cette année, on a enfin réussi à faire évacuer plusieurs centaines de personnes, dont les mineurs non accompagnés. Et on a vu à quel point c'était facile. Hein. En deux jours, 400 mineurs non accompagnés qui ont été mis dans un avion. C'est pas un problème d'argent, c'est juste un problème de courage politique, de volonté politique. Et le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est que tout le monde se rejette la faute. Personne n'assume de responsabilité. Si mon voisin ne prend pas 100 personnes, je ne prends pas 100 personnes. Donc voilà, on attend une solidarité européenne qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et donc et voilà, et sur les problèmes migratoires, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve, et donc il n'y a pas d'issue tant que on essaye de trouver des solutions qui sont basées sur ce mécanisme de solidarité, de partage des responsabilités, c'est assez déroutant en fait de voir que au nom du manque de solidarité européenne, on laisse des gens se noyer en mer, on laisse des gens bloqués sur des bateaux pendant des semaines. On laisse des personnes, des enfants, il y a 4000 enfants aujourd'hui bloqués sur 5 km de route entre des barrages de police, traités comme des animaux qui sont échappés d'une cage, qu'il faut remettre dans une cage. Enfin, c'est incroyable, on est vraiment et voilà. Et donc on est et la réponse, c'est tant qu'on n'arrive pas à réformer Dublin, tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est ce qui va se passer, alors qu'il n'y a absolument aucune raison que ça se passe comme ça.
Cette situation qui est décrite là par Aurélie Ponthieux, c'est pas la première fois qu'on la décrit. Elle est connue. Elle entre manifestement en contradiction totale avec les valeurs et le droit tel qu'il s'applique en Europe. Quel regard vous portez sur ce que j'appelais tout à l'heure, et je ne suis pas le premier à le faire, cette forme de dissonance cognitive?
C'est peut-être moi, c'est ma plus grande question. C'est ma plus grande question aujourd'hui. Et c'est une question qui me laisse de plus en plus terrorisée. Parce que à la fois, on dit, en effet, là, les enfants sont sur 5 km de route entre Karatepe et Moria. Aujourd'hui, un jeune homme de 17 ans s'est noyé en partant tout seul de Tanger, dont on ne peut plus partir, pour essayer d'arriver 14 km plus loin de l'autre côté, en Espagne. Lorsque le feu a pris à Moria, il y avait 250 personnes dans la prison, enfin le centre de rétention, qui était emprisonné pour être transféré ou expulsé.
Donc la prison en dur, en fait,
La première chose, les policiers ont ouvert cette prison. Heureusement, les 250 personnes seraient mortes. Je veux dire par là qu'on se comporte malgré tout comme si, quand quelqu'un est enfermé et va être brûlé, on lui ouvre la porte. Et pourtant. Voilà, on est sur deux chemins qui sont complètement parallèles et qui ne se rencontrent pas. À la fois, on continue à être un peu en accord avec des valeurs transmises ou des lois qui l'ont été, qui sont écrites, qui sont non écrites, qu'on nous a dévoyées, ces valeurs-là, qu'on nous a morales, hein, humanitaires en fait, qui nous sont transmises, bien heureusement, et à la fois pas du tout. À la fois, il faudrait s'habituer à ce que 27 personnes soient sur un bateau danois, empêchées depuis un mois d'aborder sur Malte. Je ne dis pas qu'ils y prennent bien, le bateau danois en question, n'empêche que ça fait un mois que 27 personnes tournent autour d'une île. Et alors, voilà, c'est l'impression qu'on vit sur deux... On vit à la fois... selon deux références, celle qui est la référence morale qui est encore la nôtre. Voilà, on ouvre la prison quand quelqu'un va se brûler, on tend la main à quelqu'un qui est en train de se noyer. Et de notre côté, du point de vue des pratiques, aujourd'hui, on vient d'apprendre que la distribution de nourriture à Calais sont interdites.
Interdite aux associations qui ne sont pas reconnues. Voilà.
Reconnues, voilà. Enfin, c'est-à-dire, moi, si je veux donner à manger à Calais, je ne peux pas. Voilà. Et du coup, on vit sur. Et voilà, ça, c'est une des choses qui peut-être nous rend le plus. inquiet et puis terriblement mal à l'aise aujourd'hui.
Alors on l'entend, évidemment, il n'y a probablement pas d'explication, en tout cas univoque, à cette situation. En revanche, on peut analyser une forme de glissement, et c'est notamment ce qu'a fait l'anthropologue Michel Agier, qui parle, lui, d'encampement du monde, qui avait étudié en 2016, qui a dirigé un livre important sur cette situation de l'encampement. Et voilà ce qu'il disait, c'était à la Grande Table en 2016.
Le monde nous rejoint, ou cette manière... de découvrir, bon, par l'émigration, mais aussi là par la difficulté politique à résoudre, quoi, ces questions de mobilité qui existent à l'échelle internationale, donc à créer des camps, à créer des lieux de relégation, etc., fait que effectivement, pour moi, en tant qu'ethnologue, je me dis, je suis devant des scénarios, des paysages, des scènes qui sont les mêmes, en tout cas en apparence, que ce que j'ai pu voir pendant une quinzaine d'années au Libéria, au Kenya, en Zambie, au Proche-Orient, en Grèce, au sud de l'Europe. Et donc, moi aussi, d'une certaine façon, je me suis rapproché avec mes terrains jusqu'à venir à Paris, sous le pont Jaurès ou à Calais. Et donc, là, on voit bien, je pense qu'il y a un élément qui est, on entre dans le monde, on entre dans la mondialisation, peut-être par une mauvaise porte, mais on entre dans la mondialisation. On réalise, on l'a dit un peu à propos du 13 novembre, on réalise qu'on est dans le monde et que finalement, on va pas pouvoir faire comme si on n'y était pas. Il faut, voilà. On est solidaire, on est organiquement solidaire, je dirais, de ce qui se passe à Khartoum, de ce qui se passe à Maïdougouri, au Nigeria, de ce qui se passe évidemment à Alep. Et donc ça, on ne peut pas faire comme si c'était pas vrai.
Aurélie Ponthieu, on entend donc l'anthropologue Michel Agier dire les situations, mes terrains d'anthropologue se rapprochent petit à petit depuis l'Afrique jusqu'au centre de Paris ou à Calais. Est-ce que vous, en tant que spécialiste des questions de déplacement de la population pour Médecins Sans Frontières, et donc ayant le regard aussi de l'ONG Médecins Sans Frontières, vous diriez la même chose? Ce sont des situations qui existaient avant loin, en définitive, dans des camps qui se trouvaient en Afrique ou ailleurs, et qu'on retrouve aujourd'hui en Europe et même en France.
Oui, je pense que c'est effectivement, on peut voir ces trajectoires. On voit d'ailleurs beaucoup des personnes qu'on retrouve sur ces routes migratoires en Europe ont été dans des camps, dans des pays d'accueil en Afrique du Nord ou dans le Moyen-Orient. Donc il y a cette expérience de camp évidemment qui est très importante dans les parcours des réfugiés et qui aujourd'hui est remise en question depuis plusieurs années. Il y a une remise en question du camp et c'est vrai qu'on voit de moins en moins de camps qui visent à protéger. De plus en plus de camps qui visent à expulser, à dissuader d'autres personnes, etc.
Quand vous dites protéger, c'est protéger évidemment les demandeurs d'asile.
Oui, exactement. Et donc, parce que c'est ça aussi le but à l'origine d'un camp de réfugiés. C'est pour ça que, enfin, moi, j'appelle jamais le camp de Moria un camp de réfugiés, parce que c'est l'image du camp de réfugiés, c'est aussi la protection et l'assistance. Le camp de Moria ne vise pas ni à protéger ni à donner de l'assistance. Il vise à détruire l'espoir. Donc, c'est vraiment, voilà, le but, c'est ça, c'est que les gens abandonnent leur demande d'asile et décident de rentrer chez eux. C'est le but de ce camp. Et après, on voit des situations de déplacement si je pense par exemple à la crise de déplacement du Venezuela, on voit pas la Colombie organiser des camps de détention à la frontière. Alors évidemment, ça pose plein de problèmes en termes d'intégration, d'accès au travail, d'accès aux soins, d'accès, d'intégration dans la société, évidemment. Mais je veux dire, c'est pour ça que c'est ça qui est assez dingue, en fait, de voir cette situation à Lesbos. On parle aujourd'hui de 13 000 personnes. Au plus fort, on a eu, oui, 20 000 personnes. Il y a aujourd'hui 27 000 personnes qui sont encore dans les hotspots en Grèce, sur toutes les îles. Et donc, il n'y a absolument aucune raison qu'en Europe, on en arrive là. Les mouvements de population vont toujours présenter des défis qui sont très multiples, très complexes, mais je pense que, et aujourd'hui encore plus avec le Covid, on voit que c'est un destin commun et aussi une santé commune. On peut pas juste fermer la porte et dire moi je protège mon bien-être. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas le monde dans lequel on vit, et je pense que il faut vraiment remettre en question aujourd'hui, et je pense que on a une opportunité aujourd'hui avec l'incendie de Moria de ne pas reproduire, de tourner une page, de recommencer une page de politique migratoire en Europe. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'annonce, parce que ce qu'on entend, c'est qu'on va en profiter pour construire un centre de détention complètement fermé Et ça, ce serait vraiment dramatique.
Malgré les bonnes volontés affichées d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui avait tweeté « Je suis profondément attristée par les événements dans le camp réfugié de Moria en Grèce. Nous tenons prêts à aider avec les États membres. Notre priorité, la sécurité de ceux qui se retrouvent sans abri. » Voilà pour les déclarations de la présidente de la Commission européenne. Mais juste un mot peut-être, Camille Schmoll, avant que l'émission ne touche à sa fin, sur ce qu'on vient d'entendre de la part de l'anthropologue Michel Gilles, qui nous dit que c'est aussi une façon d'entrer dans la mondialisation par le biais des flux migratoires dont vous êtes une spécialiste et qui s'impose à nous en définitive.
En définitive, exactement. Michel Agier a réfléchi sur l'encampement, il a également réfléchi sur le cosmopolitisme et on est de fait dans des sociétés cosmopolites et ces flux migratoires qui sont criminalisés, qui sont faits d'errance, d'immobilisation multiple dans des camps et de mise en mobilité forcée parfois, en fait ils représentent une infime minorité par rapport à l'importance des mobilités dans le monde. Et ces mobilités, d'ailleurs, on les a vues un petit peu en crise avec la question du Covid. Et donc, en fait, notre mondialité, elle est là. C'est notre cosmopolitisme au quotidien, dans nos villes, dans nos pays. Hein. C'est 20 millions de personnes non européennes qui vivent dans l'Union européenne. Ce sont les couples mixtes, ce sont, enfin, tout ça. Et donc, c'est un monde de circulation. Et en fait, ce qui est complètement paradoxal, c'est cette focalisation des politiques sur cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on est en train de on crée un problème avec des flux extrêmement réduits et en pensant que en fait en ouvrant un tant soit peu les frontières, on créerait des appels d'air, on crée des problèmes qui n'existent pas. Nous, ce qu'on a essayé de montrer dans le cadre du GIEM notamment, c'est que la théorie de l'appel d'air, elle ne fonctionne pas. Et que en réalité, instituer des corridors humanitaires, essayer de faciliter la libre circulation, ça permettrait au contraire de voir les effets aussi positifs en termes de diversité, mais aussi en d'autres termes, sur plusieurs aspects, sur plusieurs plans, de ces migrations. Donc en fait, voilà, la balle est dans le camp des politiques à la fin du mois de septembre.
Marie Connet, pour conclure, je le disais, vous avez fait un séjour au camp Moria, vous êtes toujours en contact avec des gens là-bas et je vais pas vous demander maintenant que va-t-il se passer, mais plutôt qu'est-ce que vous avez recueilli, vous, comme témoignage et quelles sont les aspirations, peut-être les attentes, s'il en reste là-bas?
Le dernier message que j'ai reçu disait « Le peuple se libère par eux-mêmes, si le gouvernement ne trouve pas la solution, nous la trouverons ». Ça, c'est le dernier message que j'ai reçu. Et je voulais dire aussi que tout ce que vous venez de dire est à mettre aussi en regard avec, malgré tout, les migrations écologiques qui sont à notre porte. Et donc, si on n'arrive pas à prévoir ce qu'on sait arriver, si on n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'on voit venir, voilà, si le gouvernement ne trouve pas, peut-être que le peuple lui trouvera.
Écoutez, on continuera évidemment à suivre cette question. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Camille Schmoll, Marie Connet et Aurélie Ponthieu d'avoir participé au temps du débat du samedi. Merci également à toute l'équipe qui permet à cette émission de se faire. À la prise de son aujourd'hui, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Vanessa Nadjar, collaboratrice d'émission Seam Boutata. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question. Après 6 mois de pandémie, on reste sur la question du Covid, après 6 mois de pandémie, le gouvernement cherche-t-il encore sa communication? 3 invités, Thomas Meynier qui est député LREM de Charente, Caroline Ollier-Yaniv qui est politologue et Christian Lehmann, médecin généraliste. Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, L'Esprit public par Émilie Aubry. Émilie qui parlera d'abord de la France, une entrée politique sans la gauche, c'est une question, et ensuite de géopolitique, comment faire pression sur Vladimir Poutine. Dans quelques instants, vous retrouvez Hervé Gardette pour Politique. Excellent week-end à toutes, excellent week-end à tous, à l'écoute de France Culture.